שבוע טוב. אומר לספר לפרשה סט סמן. ויש לך. כי אמור? כי אמור דן לפרשה? אה? אטנדה, זה קוט 10 אירו סי און רפון פו. ג'י די, סינון, און פו טו דיר. נון, בור, טו נו פי פא פור יצחק. יצחק איל אמור דן ויש לך, סי ג'וסט. סי און רפון ג'וסט. כי אנקור אמור? Qui est encore mort dans Parashat Vayishlach? Rivka. Rivka, c'est marqué dans Rashi, c'est juste. En Rashi, il est marqué que Rivka est mort. Qui est encore mort? C'est de la triche parce qu'il faut la connaître depuis l'année dernière. Bon. Alors, il y a une dame qui est morte. Elle s'appelle Devora. Madame Devora. Personnage inconnu au bataillon, je vois. Le texte, il dit « Vatamot Devora ». Devora est morte. « Mineket Rivka », la nourrice de Rivka. « Vatikaver mitachat le bet-el tachat ha'alon ». Elle était enterrée, mitachat le bet-el, en dessous de la ville bet-el, tachat ha'alon, sous la chaîne. « Vayikra shemo » Et Yaakov, il appelait cet endroit Alon Bachut, la chaîne de pleurer, de sanglots. Voilà, comme ça la Torah nous raconte. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ce verset? Devora, la nourrice de Rivka, est morte. Mais qui c'est Devora, la nourrice de Rivka? La nourrice de Rivka. On l'a déjà connue, on connaît cette femme. On connaît quand Eliezer est venu à Haran pour chercher une femme pour Yitzhak. Alors le texte, il dit que Rivka lui dit, je vais partir avec ce monsieur. Alors il est marqué que Lavan et sa mère, ils ont envoyé Devora, Menek et Rivka. Rivka, elle est partie avec sa nourrice Devora. Très bien. Ça, c'est quand Rivka, elle avait 3 ans, quand elle est partie se marier avec Yitzhak. Là, cet endroit-là, nous sommes à peu près 140 ans ou 130 ans, 135 ans après cette histoire. Les textes nous racontent que Devora, elle est morte. Et si la Torah n'avait pas dit que Devora, elle est morte, j'aurais aussi su qu'elle est morte. Tout le monde meurt. Pourquoi la Torah a besoin de me le raconter? Évidemment, on meurt. Toutes les personnes que la Torah présente, on nous regarde, on nous raconte qu'ils sont morts. Donc ce n'est pas qu'elle est morte, ce n'est pas un chidouche. Le chidouche, il est qu'on a pleuré. Le chidouche, il est à quel moment elle est morte, où elle est morte, où elle était enterrée et que toute la famille a pleuré. Voilà ce que le texte il dit. « Vatamo Devora, Devora, elle est morte, mais neket Rivka, la nourrice de Rivka » Vatikaver, elle s'est fait enterrer en dessous de Bethel, sous une chaîne, et on l'appelait Alon Bachut, la chaîne de pleurer. Qui a pleuré? Yaakov et toute la famille. Ils ont pleuré cette vieille dame de 140 ans qui est morte. Pourquoi la Torah rentre dans les détails où elle est morte, où elle est enterrée? Mais pourquoi on a tellement pleuré? Mais qu'est-ce qu'elle signifie cette personne? Pour que la Torah fait de ça une histoire, les mots dans la Torah sont rares. Chaque mot a une signification. Chaque verset il a une signification. On ne raconte pas comme ça des histoires. Ça veut dire que cette histoire, ça veut dire que cette personne est importante. Et cette mort est importante. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, on va essayer de comprendre un petit peu qui c'est cette Devora. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Eliezer est venu à Haran. Il était au puits. Une petite fille vient courir, chercher de l'eau. Eliezer, il demande, est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau? Oui, bien sûr, monsieur. Et aussi à vos chameaux. Elle sert à Eliezer, elle sert aux chameaux. Très bien. Et après, il demande, Eliezer, Bat Mi'at, tu es la fille de qui? Est-ce qu'on peut passer la nuit chez vous ? Bien sûr, monsieur. Je suis la fille Rivka, Bat Betuel, Ben Milka, Asher Yalda, Lenachor. Je suis Rivka, la fille de Betuel, le fils de Milka, qu'elle a accouché Betuel pour Nachor. Donc j'ai un grand-père qui s'appelle Nachor. J'ai une grand-mère qui s'appelle Milka. Mon père, il s'appelle Betuel, et moi, je m'appelle Rivka. Très bien, on a bien compris. D'accord. Eliezer est rentré. Bon, d'abord, Lavan, il est venu, il a couru. Monsieur, mais venez, pourquoi vous êtes dehors? Vanochi peniti abayit, j'ai débarrassé la maison, mais rentrez, monsieur. Il est rentré avec tous les chameaux, tout le monde connaît l'histoire. Très bien. On connaît l'histoire, qu'ils ont mangé, Eliezer l'a raconté, le chidour, et Rivka, elle était d'accord. Le lendemain, d'accord. Rivka, tu peux partir, tu vas épouser Yitzhak, très bien. Et ils ont envoyé Deborah, Ménèque et Rivka. Où c'est marqué à la fin de Parshat Chayei Sara. Vaishalchu et Rivka chotam veet meinikta. Ils ont envoyé Rivka, leur sœur, veet meinikta et sa nourrice. Vetevet Avram et Anasha. Qu'est-ce que la Torah nous raconte ici? Ils ont envoyé Rivka avec sa nourrice. Elle fait quoi, cette nourrice, dans cette histoire? Une nourrice, meneket, ça vient de quel mot, meneket? C'est quoi la racine du mot? Yonika. Yonika, ça veut dire boire du lait, téter du lait. Yonek, tinok. Un bébé qui boit le lait de sa mère, il s'appelle un tinok. C'est-à-dire, cette nourrice, elle a nourri Rivka. Elle donnait du lait, mais elle n'avait pas de maman. Elle est tombée du ciel comme ça, son maman, cette Rivka. Elle avait une maman. La Torah raconte, elle a parlé même dans la paracha. Kanirel n'avait pas du lait. Il fallait louer une nourrice. Et cette nourrice, elle s'appelle Devora Mazal Tov. Mais combien du temps on donne à boire du lait à un enfant? Combien du temps on donne à boire? 1 an? 2 ans? Pas maximum 3 ans. Normalement, 2 ans, on arrête. Et Rivka, elle avait 3 ans. Elle était une grande débrouillarde, cette Rivka. Elle servait de l'eau pour 10 chameaux et elle était, c'était pas un petit bébé. Elle était obligée d'encore boire de nourrice. Elle pouvait pas prendre son biberon tout seul d'une vache. Alors, le Targum Yonatan Ben Uziel et le Targum Onkelos, ils traduisent le mot nourrice, meneket. Ça ne veut pas dire simplement nourrice. Meneket veut dire éducatrice. Elle a éduqué, bien sûr, elle a donné à boire quand Rivka est petite, elle donnait à boire du lait. Après, elle a éduqué Rivka. À tel point, elle a éduqué Rivka que la mère et Lavan, le frère, quand ils ont donné Rivka à Eliezer, ils ont dit, elle a une éducatrice, monsieur. Elle a une femme qui éduque cette fille. Il faut qu'on vous envoie. Eliezer n'a rien demandé. Eliezer, il a demandé Rivka. Eux, ils ont dit, monsieur, il faut que vous preniez Devora avec vous. Bechavot, il a pris Devora. Alors Devora, elle est partie avec Rivka pour éduquer Rivka à la maison de Yitzhak. Ça, c'est quand Rivka, elle était jeune. Maintenant, la Torah nous raconte ici, Yaakov Avinu, il est né, et il a eu beaucoup d'enfants. Il était aussi à Haran, il a pris à 63 ans, il a pris les brachot de son frère Esav. Rivka, elle avait 3 ans. Pour avoir son fils, ses 2 fils, et il savait Yaakov, ça durait 20 ans. Après, à 63 ans, Yaakov, il a pris les brachot d'Esav. 14 ans, il était l'Yeshiva de Shem Ve'ever. Après, il est parti à Haran. Il a eu 11 enfants. Et après, ils sont partis, on a vu ça ce matin, ils sont partis de chez Haran. Et ils sont revenus vers Eretz Israël. Ils sont venus dans la ville de Shechem. Dans la ville de Shrem, les gens ont voulu se convertir, ils ont pris Dina, Shimon Velev, ils ont massacré la ville. Une fois qu'ils ont massacré la ville, Shimon Velev, ils ont pillé tous les bijoux de la ville, ils ont amené chez Yaakov, et Yaakov, il est parti. Et ici, ils sont arrivés à Bethel, un petit peu avant la mort de cette Devorah. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Voyomer Elikim El Yaakov, vas-y, pars à Bethel, fais un korban là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov aux enfants? Vous me donnez tous les Elohei Hanechar Asher Betochechem. Tous les idoles d'Avodezara que vous avez pris chez Shrem, vous me donnez. Et il les a pris et il les a enterrés. Changez vos habits. Vayit Noel Yaakov et Kol Elehen Echar Shebedam, tous les dieux étrangers qu'ils avaient dans leurs mains, Vetanazim et Shabosnehem et les boucles d'oreilles, qui étaient aussi des bijoux d'Avodezara. Vayit Monotam Yaakov Tachatayel Asherim Shrem. Yaakov les a enterrés sous la chaîne qui était à Shrem. Vaïssa, ils ont voyagé. Et Dieu, il a mis la peur. Les nations n'ont pas couru derrière Yaakov pour se venger. Yaakov l'ouza Asher Beratzkenan, Bethel, avec tout le peuple. Et il a fait un misbeach l'Hashem. Une fois qu'il a fait le misbeach, il a fait un korban pour Hashem, va tamo devora. Et devora, elle est morte, Menek et Rivka. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Dvora? Au milieu de la route, elle est morte. Mais quelle route elle a fait? Comment elle se trouvait ici, cette Dvora, Menek et Rivka? Comment elle se trouvait ici? Elle était très âgée, il faut s'imaginer. Rivka déjà, 20 ans jusqu'au mariage. Yaakov, il avait 110 ans, donc ça fait 130 ans. Elle était probablement un peu âgée, plus âgée que Rivka. Elle a nourri, donc elle avait 15 années de plus. Elle a 140 ans, cette femme. Comment elle se trouve sur cette route? Alors Rashi explique, au nom de Rabbi Moshe Hadarshan, que quand Rivka est venue à 3 ans avec cette Ménéket dans la maison de Yitzhak, cette femme est restée là-bas. Yitzhak se marie avec Rivka, et il y avait une femme dans la maison, Devora. Elle est restée là-bas pendant 140 ans. Et maintenant, Rivka, il a dit à Devora, « Par Acharan a dit à mon fils Yaakov de revenir. C'est bon. Il faut qu'il revienne maintenant. » Alors, cette femme, elle est partie. Elle a rencontré Yaakov sur la route et elle est morte. Voilà, elle vient à Bethel. Yaakov est venu de Haran. Haran, c'est la frontière entre la Syrie et la Turquie. Yaakov avec toute la famille vient de Haran, arrive de Shrem, arrive à Bethel, elle vient de Beersheba, ils se rencontrent et elle meurt. Voilà, c'est comme ça Rashi explique. Le Ramban, il ne dit pas comme ça. Il dit, c'est étonnant ce que Rabbi Moshe Hadarshan, il dit, Rivka, elle veut chercher Yaakov, elle envoie une dame de 140 ans. Pourquoi il n'y a pas des jeunes hommes pour raconter à Yaakov qu'il faut venir à la maison? Et l'on voit cette Ménéket, c'est étonnant, il dit le Ramban. Alors le Ramban, il dit non, il faut comprendre la chose autrement. Cette Ménéket, elle a été repartie de chez Yitzhak à un moment à Haran dans la maison de Lavan. Elle est venue avec Rivka pour le mariage de Yitzhak Rivka, elle est restée un peu là-bas. À un moment, Rivka a dit, Madame Devora, retournez chez mon frère Lavan à Haran. Retournez, s'il vous plaît. Elle est retournée, elle avait 40, 50 ans à l'époque. Elle a vécu toujours chez Lavan. Yaakov se mariait, il a eu des enfants. Maintenant, Yaakov, il retourne, et cette Ménéket revient avec Yaakov. Elle revient avec Yaakov. Ils arrivent à Bethel. Yaakov, il dit à ses enfants, enlevez tous les idoles que vous avez pris de la ville de Shrem, on les enterre, Yaakov fait un autel et elle meurt. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi elle meurt maintenant? Il faut savoir une règle, il est marqué dans Sefer Seder Olam. Il y a un livre qui s'appelle Seder Olam, qui était écrit par un Tana, Rabbi Yosef ben Khalaf, dans l'élève de Rabbi Akiva, où tous les personnages du Tanakh les événements du Chumash, tous les personnages historiques qui sont référenciés, avec quand ils ont vécu, quand ils ont né, quand ils sont morts, tout ce qui est marqué, et les événements clés. Et à la fin de Sefer Seder Olam, il est écrit, le Chumash y raconte Zé Sefer Toldot Adam, Beyom, Bro Hashem Elokim Adam. Voici le livre de l'homme, le livre de l'humanité. Melamed, ça nous enseigne que Dieu, il a un livre qui s'appelle Sefer Adam. La Torah parle de ce Sefer Adam. Qu'est-ce que veut dire Sefer? Sofer, compter. Les tzadikim sont comptés. Dieu, il a préparé le nombre des tzadikim qu'il a besoin dans ce monde. Ce monde doit être guidé. Les générations n'ont pas le droit d'échapper à la moralité, à la direction que Dieu y veut. Donc, il a préparé des tzadikim, et dans chaque génération, Dieu fait descendre les personnes qu'il a besoin pour gérer la génération. Mais la vie de ces tzadikim est comptée. Combien d'années il doit vivre? Combien de jours il doit vivre? Combien de minutes? Combien de secondes? Et combien de pas il doit faire dans la vie? Comme ça, il est marqué dans Sefer Seder Olam de Rabbi Yosef Halafta. Les tzadikim, ils naissent et ils meurent d'après le calcul qu'Hachem a besoin. Les tzadikim, les grands, les chefs de la génération, les gens les plus importants du peuple juif, ils ont une vie cadrée, une vie qui correspond à une mission, à des missions. Une fois qu'ils ont terminé leur mission, ils quittent le monde. Cette devora, nous allons voir un petit peu, la Torah nous parle de cette mort, où elle est morte, où elle est enterrée. Quelle est la mission de cette Madame devora? Alors, elle était l'éducatrice de Rivka. On va essayer de comprendre un petit peu mieux. Quand Eliezer, il a demandé à Rivka, « Comment tu t'appelles ?» Elle a dit, « Je m'appelle Rivka, la fille de Betuel, qui est le fils de Milka, qui a accouché Betuel pour Nahor. » Mais attends, elle a cité le nom de sa grand-mère Milka. Pourquoi elle n'a pas cité le nom de sa mère? Elle avait une mère, le père s'appelle Betuel, elle avait une mère. Elle ne cite pas sa mère. Elle cite sa grand-mère. Elle cite sa grand-mère avant le grand-père, avant Nahor. Normalement, Betuel, Ben Nahor, et ma grand-mère c'est Milka. Elle dit, mon père c'est Betuel, qui est le fils de Milka, et mon grand-père, Nahor. Tout de suite, elle parle de sa grand-mère. On dirait que Rivka avec sa grand-mère, ils avaient quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait avec cette grand-mère? Et qui c'est cette Milka? Milka, c'est la sœur de qui? De Sarah. C'est les deux filles de Haran. Haran avait deux filles, Yiska et Milka. Et Yiska, c'est Sarah. Alors Milka, c'est la sœur de Sarah. Très bien. Donc, Betuel, en vérité, c'est le neveu, c'est le cousin de Yitzhak. Très bien. Mais pourquoi Rivka, elle était attachée à cette Milka? Qu'est-ce qu'elle a avec sa grand-mère? Qui était Betuel? Betuel était, comme dit le Midrash, c'était le chef d'Avodah Zarah. Betuel, c'était le curé de la région. À part ça, il était un grand voyou. Mutu est un archivoyou. Et sa fille, Rivka, c'est une femme pieuse, une fille de sa déquête. Comment est-ce possible? Son père, c'est un voyou. Elle ne parle pas de sa mère. Le texte, il dit, quand Eliezer, il a mis les Nezamim sur la main, elle a couru à la maison, Vatarotz, le Bet Ima. Elle a couru vers la maison de sa mère pour raconter qu'elle a reçu des bracelets d'un monsieur. Le texte ne dit pas « Vatarotz el ima », elle a couru vers sa mère. Le texte il dit « Vatarotz el bet ima », vers la maison de sa mère. Mais on ne parle pas à une maison, on parle à des personnes. Donc elle parle à sa mère, mais le texte ne dit pas qu'elle a parlé à sa mère. À la maison de sa mère, on dirait que dans la maison de sa mère, il se trouvait des personnes. Qui se trouvait dans cette maison à part sa mère? La logique dit, cette Ménèque était la veinée du Catrice. Ou peut-être sa grand-mère se trouvait là-bas. Peut-être Milka, elle était encore vivante. En tout cas, Devorah, elle se trouvait là-bas. Une éducatrice, éduquée. Pourquoi elle a besoin d'éducatrice? Qui l'a nommée éducatrice? Hein? Qui l'a nommée éducatrice? Et elle était pieuse. Et Rivka en Tzadek, et bien tout, elle, c'est un voyou, elle avance, c'est un voyou. Mais quand un père, il cherche une éducatrice pour éduquer sa fille, il veut que sa fille sera quoi? En principe, la majorité des gens, comme ça, la majorité des gens, ils veulent que leurs enfants, ils sont comme eux. Donc si lui, c'est le curé Bethuel, il veut que sa fille sera une curine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a importé une femme pieuse pour éduquer Rivka, qu'elle sera une tzadeket. Pourquoi il a fait ça? Parce que Bethuel était le fils de Milka. Il y a ici une grand-mère. Cette grand-mère, elle a vu qui c'est son fils Bethuel. Elle a dit, toi, Bethuel, tu auras une fille. Je ne veux pas que la fille sera comme toi et comme ton autre fils Lavan. Cette fille, tu vas l'éduquer religieusement. Je te donne ici une femme de Vora, elle donnera du lait à cette fille. Cette Dvora était une tzadeket. D'où elle était? D'où elle a appris cette sitkout? Alors, il faut connaître un secret. Il est marqué le jour que Yitzhak Avinu est né, Sarah, elle était dans tous ses états. Elle a dit, Tzrok asali elukim, kol hashomea yitzhakli. Dieu m'a réjoui. Tous ceux qui entendent que moi, à 90 ans, j'ai un enfant, ils vont rire, ils vont se réjouir. Bon. Et après, il a dit, Mimilel Avraham heni kobanim Sarah, qui est là, il a dit Ben Liskunaf. Qui pourrait donc raconter à Avraham heni kobanim Sarah, que Sarah, elle a allaité des enfants? Elle a allaité des enfants ou elle a allaité un enfant? Sarah, elle avait un enfant, Yitzhak. Donc, qui aurait pu raconter à mon mari Avraham que Sarah va allaiter un enfant? Mais elle n'a pas dit un enfant, elle a dit, Hénika Banim, elle a allaité des enfants. Pourquoi des enfants? Rashi rapporte la Gemara. Les gens de la ville se sont tous moqués d'Avram et Sarah. Qu'est-ce qu'il raconte le vieux Pépé à 100 ans? Qu'il a eu un enfant et que sa mère, sa femme de 90 ans, elle a un enfant. Raconte ça à ta grand-mère. Ils ont ramassé un enfant à la DAS, ils le font rentrer à la maison, ils le font passer pour leur bébé et ils racontent des histoires à dormir debout. Comme ça, Rashi raconte, tous les gens, ils ont rigolé. Alors, Sarah, il a dit à Kadosh Baruch Hu, montre à ces gens-là que c'est mon bébé. Alors, elle a invité toutes les femmes de la région, venez chez moi, je vais leur donner à boire. Et toutes les femmes sont venues. Elles ont apporté leur bébé. Alors, madame Sarah, il paraît que vous avez eu un enfant. Oui, monsieur. Oui, madame. Alors, vous avez un enfant, donc vous pouvez allaiter. Oui, madame. Vous pouvez allaiter, mon fils. Pas de problème, donnez-moi. Alors, il y avait une salle, il y avait là-bas 300 femmes, ou je ne sais pas combien. Chacune est là pour son bébé. Heini Kabanim Sarah, elle a allaité tout le monde. Hachem, il a fait un miracle, qu'elle avait du lait, ça coulait. Et Razavat Khalaf Udvash, ça coulait. Elle a allaité tout le monde. Et les femmes, elles étaient paf. Eh bien, Sarah, c'est la mère de cet enfant-là. Mais le Midrash ajoute sur ça. Le Midrash dit, toutes les femmes qu'elles apportaient leur bébé, le Shem Shamayim, pour montrer que Dieu il a fait un miracle à Sarah, ses enfants sont devenus des tzadikim. Comme ça dit le Midrash. Ils sont devenus tous, chassid et umot olam, des gens justes, des tzadikim, pendant toute leur vie, parce qu'ils ont bu le lait de Sarah. Boire le lait d'une prophétesse, c'est pas d'avoir pas choute, c'est pas simple. La Torah nous raconte sur Moshe Rabbeinu, Une fois que la fille de Pharaon a retiré Moshe du fleuve, alors il ne voulait pas boire, et Myriam est venue chez la fille de Pharaon. Voulez-vous que je vous cherche une nourrice? Voulez-vous que je vous cherche une femme in ha'ivriot? La fille de Pharaon, elle a dit oui, elle a amené Yochevet. Et Yochevet, elle donnait à boire à Moshe. Yochevet était une prophétesse. Moshe Rabbeinu, il a bu le lait de sa mère. Boire le lait d'une tzadikette, ça rentre dedans. Il y a une histoire dans la Gemara. À l'époque, les Romains, ils ont interdit de faire la Brit Mila. Le chef des Juifs, il s'appelait Rabbi Shimon ben Gamliel, chef en Eretz Israël et plus grand chacham. Alors sa femme, elle a accouché un bébé. Comment on appelait ce bébé? On l'appelait Yehuda. On lui a fait la Brit Mila, organisé une fête, et on a donné le nom Yehuda. Celui-là est devenu Rabbi Yehuda Hanassi, ce qui a fait la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, c'était au moment où c'était interdit de faire la Brit Mila. Alors, le gouverneur romain, il a vu ça, et il a dit, le grand rabbin, il a osé de faire la Brit Mila avec Metzitsa, sans outil, chutzpah. Alors, il a dit, moi, je veux pas m'attaquer au grand rabbin parce que ça va donner une rébellion, une révolution. Et ça, il faut que le roi de Rome, il se débrouille avec le chef. Je veux pas. Alors, ils ont pris Rabbi Shimon Gamliel avec sa femme et les bébés. On les a mis de menottes. On leur a loué deux places à l'Italia. On les a amenés à Rome. Avant de faire le jugement, ils étaient à la prison. Alors, la nièce du roi, elle a entendu, le plus grand rabbin d'Eretz Israël, il est à la prison. Elle a dit, je vais visiter cette femme, j'ai entendu sa femme aussi. Elle est venue visiter, elle demande à Madame Rabbi Shimon Gamliel, qu'est-ce que vous avez fait comme escroquerie pour que vous êtes convoqué à la justice romaine? Elle a dit, on n'a rien fait de mal. Mais il y a bien une rébellion en Israël. Non, rien, il n'y a aucune rébellion. Et alors pourquoi on vous a convoqué ici? Elle a dit, on a fait simplement la mitzvah de Brit Mila, comme tous les juifs y font, à 8 jours, on fait la Brit Mila. Oui, et alors pourquoi on vous a convoqué? Mais je ne sais pas, le roi, il ne voudrait pas qu'on fait la Brit Mila, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce que ça gêne, mais nous on a une mitzvah, on fait, on se rébelle contre personne. Cette femme, elle a compris le coup. Elle a dit, madame, je comprends, c'est l'antisémitisme qui règne c'est les mauvaises langues. Je voudrais sauver votre enfant. Laissez-moi sauver votre fils et votre vie. Elle a dit, comment voulez-vous nous sauver? Elle a dit, moi aussi j'ai accouché un enfant. On va échanger les enfants et on va se tirer de là. Vous allez vous tirer de l'affaire. Très bien. Elles ont échangé les enfants. Le lendemain matin, Rabbi Shimon Gamliel et sa femme sont convoqués devant le tribunal. Le roi, il est là. Alors, le roi, il demande, nous, monsieur le procureur, qu'est-ce que vous avez contre le rabbin? Monsieur le roi, vous avez interdit de faire la Brit Mila. Oui. Eh bien, le grand rabbin d'Eretz, il a fait la Brit Mila à son fils. Monsieur, c'est vrai, vous avez fait la Brit Mila? Non, pas du tout. Quoi? Vous n'avez pas fait la Brit Mila, monsieur le rabbin? Non. Mais non, mais vous êtes un menteur. Pas du tout. Mais non, mais j'ai vu des affiches, j'ai vu, il y avait des trucs, il y avait des... Tout le monde parlait, la Brit Mila chez le grand rabbin. Non, je ne l'ai pas fait. Vous avez fait? Oui, pas, oui, ouais, ça donnait une panique. Alors le roi il dit, mais qu'est-ce qu'on se dispute? Mais le bébé, il est là? Oui, il est là. Ben, enlevez les couches, on va vérifier s'il est maoul ou il n'est pas maoul. Ils enlèvent la couche, et il va un bon goy. Alors le roi il dit, qu'est-ce que tu veux toi? Il parle au procureur, mais qu'est-ce que tu veux? Ce bébé, il n'est pas maoul, il a raison le rabbin. Le goy, il dit, qu'est-ce que ça, leur bon Dieu leur fait des miracles, que ça repousse ce nouvel or-là. Mais c'est des magiciens, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, le roi, il dit, prenez ce procureur, coupez-lui la tête, là. Il a fait un scandale pour rien du tout. Alors, reprenez votre truc, vous avez une première classe à l'Italia, vous allez retourner à Jérusalem. Et Rabbi Gamliel avec sa femme sont retournés. Seulement, il y avait un petit problème. Il fallait maintenant échanger les bébés. Il n'y a pas de problème, ils se sont arrangés, les femmes, ni vues ni connues. Ils ont échangé et Rabbi Gamliel est reparti avec son propre fils. ce bébé qui était le fils de cette femme, elle était à la prison pendant une nuit. Et qu'est-ce qu'il a bu? Le lait de Madame Rabbanchim Gamliel. Or, ce gamin est devenu grand. Et un jour, il est devenu l'empereur de Rome. Il s'appelait Marc Aurel. Marc Aurel, l'empereur Marc Aurel, qui est connu chez tous les Romains comme le roi le plus juste et le plus droit. Il a écrit un livre, entre autres, qui s'appelle « Pensez pour moi ». J'ai le livre à la maison. C'est un livre de Moussard, très bien, presque comme la Gemara. « Pensez pour moi » de Marc Aurel, l'empereur romain. Vous pouvez l'acheter pas à côté de Picsou, mais dans des bonnes librairies, vous l'achetez. Il parle de Moussard, qu'un homme doit se comporter bien. Vraiment, il parle comme les rabbins, il parle. Or, la Gemara nous raconte que Marc Aurel, il s'appelait aussi Antoninus, de la famille d'Antonin, Marc Aurel des Antonins, et il était pendant 10 ans au Proche-Orient pour faire des guerres, et il avait un château à Tibériade. Un château à Tibériade, et dans ce château, il y avait un tunnel qui était allé à la Yeshiva de Rebbi. Rebbi, il avait sa Yeshiva, Rabbi Udanassi, il avait sa Yeshiva à Tibériade. Il y avait un tunnel de la Yeshiva des Rebbi jusqu'au château d'Antonin, et il partait chaque nuit étudier chez Rebbi. Quand il était là-bas, quand il a pu s'échapper de la guerre, il a étudié chez Rebbi le judaïsme. Il aimait la Torah plus que ça. Il prenait un sac, il a mis de l'or et de l'argent et des diamants dedans, de ce que les Romains ont conquis beaucoup de monde. En haut, il a mis du blé pour que les transporteurs ne savent pas. Il a dit, vous transportez par un tunnel, vous le transportez chez le rabbin. Le rabbin, il a enlevé le blé, il y avait de l'or et de l'argent avec ça. Rebbi l'a nourri, le plus grand kollel de l'époque. Rebbi, il a fait le Mishnah. Il a réuni tous les chachamim et Tibériade pour faire ensemble la Torah chez Baal Peh. Il fallait nourrir tous les chachamim et toute leur famille. C'est Antoninus. Et à la fin, la Gemara nous dit, Antoninus, il se convertit au judaïsme. Mais comment ça se fait qu'il aimait tellement la Torah? La Gemara nous dit parce que pendant une nuit, il a bu le lait de Madame Rabbanchim Gamliel. Une femme tzadekette, elle a donné du lait, elle a donné quelque chose d'elle-même et ça a provoqué chez lui un amour pour la Torah. Sarah, elle a allaité tous les enfants de la région. Ceux qui ont amené leurs enfants, les Shem Shamayim, sont tous devenus des tzadikim, il dit le Midrash. Une de ses enfants était qui? C'est Devorah. Devorah aussi, elle a bu du lait chez Madame Sarah. Cette Milka, sa sœur, a pris cette Devorah. Il a dit, toi, tu seras responsable. Mon fils Betuel, voyou qu'il est, il aura une fille. Tu es responsable d'éduquer cette fille bien. C'est elle qu'elle a éduquée. Elle donnait à boire du lait à Rivka. Tu vas éduquer cette Rivka. Une fois qu'elle se mariait à 3 ans, elle est repartie chez Yitzhak. Il a dit, il faut que tu continues à l'éduquer. Sarah, elle était déjà morte. Alors c'est elle a éduqué Rivka. Qu'est-ce qu'il se passait, le rabbin, il dit, Rivka disait à Devorah, retourne chez mon frère Lavan. Retourne chez mon frère Lavan. Pourquoi Devorah devrait revenir chez Lavan? Parce que Lavan, il a eu 2 filles, Léa et Rachel. Mais qui va éduquer Léa et Rachel dans la maison de Lavan, le plus grand truand, le plus grand bandit du monde? Il a 2 filles de tzadeket. Comment elles sont devenues de tzadkaniot? Elles avaient une éducatrice. Qui est cette éducatrice? Mais c'est Devorah. Rivka, elle a dit, retourne chez mon frère Lavan. Il a 2 filles, tu vas les éduquer. Elle est retournée, elle a vécu chez Lavan, elle a éduqué Rachel et Léa. Après, Rachel et Léa se sont mariés avec Yaakov. Ils ont eu des enfants. Devorah a continué à les éduquer. Et après, Yaakov, il a pris toute la famille. On va maintenant retourner en Eretz Israël. Et Devorah les accompagner. Et sur la route, elle est morte. Et toute la famille a pleuré. C'est Devorah, elle a éduqué Rivka. Elle a bu du lait de Sarah. Elle a donné son lait à Rivka. Elle a éduqué Rivka. Elle a éduqué Rachel. Elle a éduqué Léa. Elle a éduqué des 11 enfants. Elle a fini son travail et elle est morte. Et pourquoi elle est morte ici? En vérité, comment elle s'appelle déjà cette femme? Elle s'appelle Devora. Quelle est la traduction du mot Devora? Devora, ça veut dire une abeille. Qu'est-ce que fabrique une abeille? Une abeille fabrique du miel. Mais elle donnait aussi à boire du lait à Rivka. Le miel et le lait, c'est très bon. Vous avez déjà bu du lait avec du miel, c'est très bon. Eretz Israël s'appelle la terre où il coule le miel et le lait. Or, la Gemara nous raconte, Eretz Israël coule le miel et le lait. Même en Suisse, il coule le miel et le lait. Même en France et en Savoie, il coule le miel et le lait. En Mexique aussi. Eretz Israël coule le miel et le lait, c'est ça. Je vais vous sortir, Moshe Rabbeinu, il est venu chez les Juifs. Je vais vous faire sortir d'Eretz Mitzrayim. Et je vais vous amener dans une terre où coule le miel et le lait, c'est tout, c'est ça. Ah, il coule le high-tech au moins, dit, mais il coule le miel et le lait. La Gemara nous dit, le miel et le lait, ce sont des allusions, qui veut dire la prophétie Ruach HaKodesh. De la même façon que le corps est nourri, spécialement quand on est petit, on est nourri avec le miel et le lait, et il existe le miel et le lait rouhani qui s'appelle le Ruach HaKodesh. En Eretz Yisrael coule le miel et le lait, c'est Ruach HaKodesh. Cette Devora, elle donnait de son lait, elle était une abeille avec du miel, elle mettait du Ruach HaKodesh chez Rivka. Chachamim raconte, Yochevet, quand elle a allaité Moshe, elle lui a transmis du Ruach HaKodesh. Devora, elle donne Ruach HaKodesh à Rivka. Ça, c'est Devora. Elle a éduqué toute la famille. Comme ça, le plus grand truand du monde, Lavan et Betuel, ils ont fabriqué une fille, Tzadek et Rivka, Rachel et Léa et les autres enfants. Tous sont nés, éduqués chez le plus grand truand du monde. Parce qu'il y a derrière une femme qui a reçu une mission depuis Milka, elle a fait cette mission, elle est morte, tout le monde a pleuré. Mais pourquoi elle est morte maintenant? Pourquoi elle est morte ici à Bethel? Cette femme, elle a vécu 140 ans, elle est encore sur le voyage. Entre-temps, il y avait une histoire avec Shechem. Monsieur Shechem, il prend Dina, Shimon Lévi s'énerve à mort. Ils disent, vous allez faire la Brit Mila. Ils disent, on veut se marier avec vous. Ils disent, on ne peut pas se marier avec nous, sauf si vous faites Brit Mila. Il faut arrêter le Rabot d'Azara. Ils ont dit, bon, d'accord, on va faire la Brit Mila. Tout le monde a fait la Brit Mila. Shimon Lévi, ils ont zigouillé toute la ville. Et ils ont piqué tout l'argent et tout. Les gens, ils s'énervaient, ils voulaient les tous massacrer. Yaakov, il a dit, donnez-moi tous vos idoles, donnez-moi. Ils ont tout donné à Yaakov. Yaakov les a enterrés. Le Ramban, il pose une question. Il les a enterrés, les idoles, mais il y a un halakha dans la Torah que les idoles, il faut brûler. Vet Elohim tisrefun ba'esh. Il y a un halakha, un idole, il faut brûler. Ça ne suffit pas d'enterrer. Alors le Ramban, il répond, il y a un halakha que quand un goy se prosterne devant une idole, c'est interdit de profiter, il faut brûler. Mais si le goy dit, bon, je n'y crois plus, dans ce cas-là, on a le droit de profiter. Le Ramban, il dit, pourquoi Yaakov n'a pas brûlé ses idoles? Parce que les goyim, ils ont annulé leur idole. À quel moment ils ont annulé leur idole? Avant de faire la Brit Mila. Les frères, ils ont dit, monsieur, vous voulez vous marier avec notre sœur, il faut vous convertissez un petit peu, vous faites la Brit Mila, il faut arrêter à votre Zara. On arrête à votre Zara, c'est bon. Ils ont arrêté. Ils ont annulé. Donc, c'est l'idole, ils étaient permis. Donc, si c'était permis de profiter, les frères, ils ont pris, ils ont dit, on peut profiter de toutes ces idoles en or, en argent. Il est venu Yaakov, il a dit, je vous interdis de profiter. Vous les enterrez, on va les enterrer sous une chaîne. Pourquoi ils ne voulaient pas profiter? Alors ici, la Torah met la mort de Dvorah à côté. Dvorah était encore vivante quand Yaakov l'a enterrée. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Alors il faut comprendre quelque chose. Pourquoi Shimon et Lévi ont massacré la ville? Ils voulaient devenir comme eux. On a dit on va devenir une famille. On va se convertir. On va croire en Dieu. On va faire la Brit Mila. On va être comme vous. Alors c'est beau. Ah, pourquoi vous les massacrez tous? Ils se sont énervés chez moi, Lévi. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a du mal? Ils voulaient se convertir. Chez moi, Lévi, ils ont pensé, c'est pas une vraie conversion. Tout ça, c'est du bidon. C'est parce que le type, il veut se marier avec notre sœur Dina. C'est pas parce qu'ils cherchent Dieu, ces gens-là. Ils cherchent pas Dieu. Ils cherchent Dina. En plus, ils cherchent du commerce. Ils ont dit, on va faire du commerce avec ces gens-là. Shrem, il a parlé, il a réuni tous les gens de la ville. Ils ont dit, c'est des bons commerçants, ça, les enfants de Yaakov. On peut devenir riche avec ces gens-là. Mais ils demandent qu'on se convertit, qu'on fait la Brit Mila. Bon, alors on va le faire, mais on va gagner du business. Conversion du business. Conversion pour que les chefs, ils puissent prendre une fille juive. Ça sent pas bien. Ça sent pas bien. Ça, c'est du bidon. Bon, si on l'a vu, ils ont exagéré un petit peu, ils ont massacré la ville, mais en tout cas, j'en sentais que c'est bidon. Très bien. Cette Dvorah, elle avait fait dans sa jeunesse une petite expérience. On se rappelle quand Eliezer il est venu chez Lavan, chez Betuel, Lavan il a dit, Lama ta'amot bachutz, vanochi piniti abayit, ou makom la gemalim, pourquoi vous restez dehors, monsieur? J'ai débarrassé la maison. Vous pouvez rentrer. Je débarrassé de quoi? Des toiles d'araignée, des souris. C'est ça qu'il a besoin de dire à Eliezer, je ne vais pas vous offrir une maison avec des souris, j'ai débarrassé les toiles d'araignée. J'ai piniti, j'ai tout nettoyé dans la maison. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? J'ai enlevé tous les idoles, n'ayez pas peur, monsieur le rabbin Eliezer, vous êtes un type religieux, vous êtes le serviteur d'Abraham, j'ai tout de suite vu là qui vous êtes, j'ai compris, on a affaire avec un religieux. Mais j'ai vidé la maison, il n'y a plus une idole chez nous. Ah, c'est bien, on peut rentrer dans cette maison. Alors Lavan est devenu très religieux, il a enlevé tout l'avodah zara. Ça, c'était quand Eliezer est rentré chez lui. Et ce matin, ceux qui étaient à la choule, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? Quand Yaakov l'a quitté, et Rachel, elle a volé le dieu de... Rachel, elle a volé le dieu de son père. Son père, il a mobilisé une armée, il court derrière Rachel. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as volé mon Dieu? Je t'ai volé ton Dieu, moi je croyais que tu es devenu religieux depuis que petit, t'as vidé toute la maison. Mais ça, c'était pour recevoir les cadeaux d'Eliezer, Chacham. Lavan, il a vu qu'Eliezer vient avec 10 chameaux de cadeaux. Il a dit, ouh, il ne faut pas que je rate les 10 cadeaux, les 10 chameaux pleins de cadeaux. Ah, il faut que j'enlève la voix de Zara. Pour recevoir des cadeaux, ça vaut la peine de devenir religieux. Une fois qu'Eliezer il est parti, hop, on ramène toute la veau de Zara. Et il était obsédé, il était attaché à sa veau de Zara. Quand on lui a enlevé sa veau de Zara, il voulait massacrer toute la famille. Elle, cette Dvorah, elle a vu ça. Quelqu'un qui enlève les idoles, qui change sa religion pour un intérêt d'argent, on se tourne comme une crêpe. C'est là, il est resté. Dvorah, il a dit, Yaakov, ne te fais pas rouler par les gens d'Eshrem. Les gens d'Eshrem, ils ont annulé le rabot d'Azara. Et tes enfants, ils ont pris les idoles. Ne leur fais pas confiance. C'est rien de tout ça. Il ne faut pas profiter de ça. Enterre-le. Yaakov, il l'a enterré. Yaakov, il les a enterrés. Il a dit, maintenant, je peux faire un misbeyach. Va ta mort Dvorah, et maintenant Dvorah elle est morte. Elle a terminé sa mission. Elle a dit, il faut pas profiter de ces idoles de ville de Shrem. C'est une annulation. Ils ont annulé leur idole pour gagner d'argent avec les frères de... Quelqu'un qui change sa religion pour gagner d'argent, faut se méfier. Quelqu'un qui s'est converti au judaïsme pour gagner d'argent, méfie-toi de ça. Enterrez-la, n'utilise pas. Yaakov, il a enterré, il a fait un misbéach et il a terminé sa mission. Mais l'histoire n'est pas terminée. Maintenant commence le prélude de toute cette histoire. Cette histoire, elle se passait dans le Chumash. Mais 1700 années plus tard, il y avait une deuxième histoire. Alors, le Tanakh raconte comme ça. Quand les Juifs ils étaient en Eretz Israël à l'époque du premier temple, alors les 10 tribus sont parties en exil. Le roi Sennacherib est venu d'Assyrie, il a exilé les 10 tribus, beaucoup d'années après. 8 siècles après cette histoire de Yaakov, 1000 ans après, il les a exilés. Les 10 tribus sont parties en Babylonie. Le roi Sennacherib, il a pris une population non-juive. La majorité est venue d'une ville qui s'appelle Kout. C'est 100 kilomètres au sud de Bagdad. Il y a une ville Kout. Il a pris la population de Kout. Les 10 tribus de Shomron, il les a déplacées en Babel. Et la population de Kout, il les a installés en Eretz Israël. Ce peuple, on appelle les Koutiyim. Il leur a donné à habiter dans la ville de Shomron et la région de Shomron. On les appelle aussi Shomronim. Chez le Goïm, on les appelle les Samaritains, le bon Samaritain, l'hôpital, le bon Samaritain. Bon, Shomronim. Alors, ce peuple est venu en Eretz Israël. Or, il est arrivé, le Tanakh raconte, il est arrivé un événement bizarre. Des lions sont venus, des hyènes, des tigres. Ils ont commencé à attaquer cette population. Ces gens-là, ils ont dit, Sennacherib, tu nous as installés dans une terre, on dirait au jungle, on est ici au Kenya, on est ici à Botswana, on se fait attaquer par des animaux. Alors Sennacherib, il a demandé aux Juifs, dites-moi, là-bas dans votre terre en Israël, on est toujours attaqué par des fauves. Ils ont dit, ça dépend, si on est juif, on n'est pas attaqué par des fauves. Mais les Goïm, ils sont attaqués. Ah bon, c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se convertir au judaïsme. Eh bien, Sennacherib, il a dit, écoutez, eh bien, vous êtes dans la terre des Juifs, il faut se convertir au judaïsme. Ils ont dit, comment on se convertit? Sennacherib, il a dit, prenez quelques rabbinim qui enseignent là comment on se convertit. Il y a des rabbinim qui sont partis en Eretz Israël. On leur a appris, il faut arrêter Avodah Zarah, il faut faire la Brit Mila, il faut accepter le judaïsme. Ils ont dit, d'accord, ils ont accepté. Ils ont accepté comme ça. Oui, accepté, après on a arrêté. Où au début, ils ont fait la matière, après ils ont fait tout, après ils ont fait la matière, c'était comme ça, un judaïsme aller-retour. Il y a une grande machloket pendant des siècles, est-ce que c'est des juifs ou c'est des goïm? C'était pas clair. Il y en a qui ont dit, ils se sont bien convertis, bon, après ils ont abandonné. Il y en a qui disent, non, c'était jamais sérieux, c'est des goïm. C'était une grande machloket pendant des siècles, en temps des chachamim. Les Samaritains, les Juifs, ils ont souffert beaucoup de ces gens-là. Ils ont installé à Shrem. Ils ont pratiqué un judaïsme comme ça à moitié. Un quart, deux tiers, deux, trois quarts. Oui, non, bon. Après, ça se dégradait. Après qu'il y avait la destruction du deuxième temple, ça se dégradait. Ils ont commencé plus en plus à abandonner le judaïsme. Il y avait un moment, là, comme on raconte, comme on raconte, d'Abzaïn, Rabbi Avahu, Ravami et Ravasi, tous les chachas se sont réunis. Ils ont déclaré les Koutim, c'est des goyim. À partir de maintenant, on repousse ces gens-là. Personne ne se marie avec ces gens-là. Ce sont des non-juifs. Ils n'ont aucun rapport avec nous. Déjà, Ezra Sofer, quand il est venu en Eretz Israël, il les a mis au Kherem. Quand ils ont construit le Mikdash, Ezra, avec tous les Anshei Knesset Gdolola, ils ont mis au Kherem. On n'a pas le droit de se marier avec ces gens-là. C'est des, ils croient pas vraiment à la Torah. Et après le Chorban du deuxième Mikdash, on les a déclarés goy, terminé, ils ont rejeté entièrement. Qu'est-ce qu'il se passait? À quel moment c'était la goutte qui débordait le vase? Pourquoi les Chachamim, ils ont déclaré les Koutim comme goyim? La Gemara nous dit, ils ont trouvé qu'à Shrem, dans la ville de Shrem, ils avaient une idole. Et leur religion, ce n'était pas un culte pour Dieu, c'était le culte pour leur idole qu'ils avaient sous une chaîne à Shrem. Comme ça dit la Gemara. Quand les Chachamim, ils ont rentré dans le détail, quel est le secret de votre religion? le secret que sous une chaîne à Shrem, il y a une idole. Ça, c'est notre Dieu. Alors, là, quand ils sont réunis, ils ont dit, on les déclare goy. Tosfot, il dit, qui c'est les idoles à Shrem sous une chaîne? De quelle idole il s'agit? Tosfot apporte le Médrash, c'était les idoles que Yaakov, il a enterrées ici. Yaakov, il a dit à ses enfants, donnez-moi tous les bijoux et tous les idoles que vous avez pris des gens de Shrem. On va tous les enterrer sous une chaîne. On touche pas ça. Eh bien, ça, Yaakov, il a enterré. 1700 ans plus tard, les autres, ils ont sorti, et ça, c'était leur religion. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est ces deux histoires? Pourquoi ils se sont convertis, les gens de Shrem, à l'époque de Yaakov? La population de Shrem se sont convertis. Ils ont fait la Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la croyance juive?
Non.
C'est parce que Shrem, il voulait se marier avec Dina. Et pour convaincre les gens de la ville, il a dit, les enfants de Yaakov, c'est des bons commerçants. Nous allons faire des super business avec eux. Ça va enrichir le pays. Mais un hic dans l'histoire, il faut se convertir. Alors on va se convertir. Ça s'appelle une conversion, pas pour Dieu, pas pour la religion, pas pour la moralité, pour un intérêt d'argent. Ça, c'était la conversion des gens de Shrem. Les Koutim, plus tard, 1000 ans plus tard, quand les Koutim se sont convertis, ils ne se sont pas convertis pour le judaïsme, pour la religion. C'est parce qu'ils étaient attaqués par les fauves. Parce que les tigres, les lions les ont attaqués. Alors on dit, on va devenir juif. C'est aussi une conversion, pas les Shem Shamayim. Et on fait la moitié du judaïsme comme les gens de Shrem. La Ramban, il dit, au début, ils ont abandonné la Avodah Zarah. Et tout de suite, le texte dans le livre de Tanakh, il est marqué, Et Hashem hayu yereim, vet Elohim hayu ovdim. Comme ça, il dit le texte dans Sefer Melachim. Ils craignaient Dieu, le Dieu des Juifs, mais ils continuaient le culte à Avodah Zarah. Une double. On craint Dieu, le Dieu des Juifs, c'est le plus fort. Nous croyons en lui, mais on fait quand même notre Avodah Zarah. Ça a commencé de la même façon par une conversion intéressée. Et ça finit avec la même façon. Les gens de Koutim, ils ont abandonné le judaïsme. À l'époque, quand les Chachamim, ils ont mis à l'écart des Koutim, c'était pas les Koutim. Je disais avant, le bon Samaritain. Pourquoi je disais le bon Samaritain? Vous connaissez l'histoire du bon Samaritain? Vous connaissez cette expression, le bon Samaritain? Ça vient à la Havdil du Nouveau Testament. Comme il aime de parler la Lashon Hara sur les Juifs, chacun qui aime de parler les chrétiens, ça, 70% des christianismes, il est basé pour salir le peuple juif, parler mal, ça c'est un passe-partout dans tout le christianisme. Alors il y a des belles histoires comme ça, des belles histoires comme ça. Alors il raconte une histoire. Il y avait une Goya. Une femme Goya, elle était malade. Non, elle est malade, elle est dans la rue, comme ça raconte, elle est dans la rue. Il arrive un Kohen, il passe. La Goya dit, « Oh, monsieur Kohen, aidez-moi, je suis malade. » Le Kohen lui dit, « Mon fils. » Après, il arrive un Lévi. La Goya dit, « oh Lévi, sauvez-moi. » Oh, mon fils. Après, il arrive à Israël. Sauvez-moi, mon fils. Après, il arrive un Samaritain. Un des Samaritains. Le Samaritain, la Goya dit, hey, Samaritain, aide-moi. Bien sûr, je vais vous aider. Voilà le bon Samaritain. Ça, c'est une petite histoire inventée joliment dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi le Nouveau Testament parle bien des Samaritains? C'est marqué dans un autre endroit. Quand ils ont fabriqué le christianisme, ils voulaient à tout prix que les Juifs ils adhèrent à ce mouvement. Mais les Juifs, ils ont rejeté le créateur de ce mouvement. Ils ont dit n'importe quoi, saint. Ils l'ont rejeté. Alors il est parti chez les Samaritains. Et le texte il dit, les Samaritains, ils se sont très bien entendus avec ce mouvement. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est la même chose. C'est une conversion, mais pas à tout le judaïsme, à une partie. Le christianisme a dit, on va devenir un peu juif. Les goïms qui se sont convertis, on accepte certaines choses. Moshe Rabbeinu, l'histoire juive, il faut être bien. On a pris certaines choses de la Torah, mais ce qu'on ne veut pas, on refuse. Comme ça, ils ont fait les Samaritains, ils ont toujours vécu comme ça. Ils ont vécu en pioche du judaïsme ce qui nous plaît, ce qu'on est capable de faire, on refuse ce qui nous dérange. Ça, c'est les Samaritains, ça, c'est le christianisme. Quand le christianisme il a prêché le judaïsme à la carte, ça marchait bien avec les Samaritains. Dans le Nouveau Testament, il est marqué, ils sont devenus des grands copains. Et une grande partie du christianisme, c'est les Samaritains, ils sont rentrés dans ce mouvement. Quand les Chachamim, ils ont déclaré les Samaritains, Rabbi Ravasi, c'était à peu près 100 ans après le Chorban, 130 ans, 150 ans après le Chorban du Beth Amikdash, ils ont déclaré les Samaritains définitivement goy. C'était pas que les Samaritains, c'était les Samaritains et les chrétiens avec toute leur hérésie, ils ont plein de sectes là-bas, on les a mis dehors. Et là, le judaïsme a commencé à reprendre. Les Juifs étaient infestés par toutes sortes de sectes hérétiques pendant le Chorban du Beth Amikdash. Chacun il a fait son mouvement. On les a déclarés, vous êtes en dehors. Les chrétiens voulaient à tout prix être considérés comme juifs. Vous êtes des goyim. Laissez-nous tranquilles. Ce n'est pas notre religion. Vous voulez votre religion, faites votre religion, mais ce n'est pas le judaïsme. On voit dans les premières discussions entre les chrétiens et les juifs, il y a un livre qui a été écrit par, on appelle ça le Justinien le Martyr. Vous avez lu une fois ce livre, hein? Justinien le Martyr. C'est un Samaritain qui est devenu chrétien. Justin le Martyr, j'ai oublié son nom. Vous le trouvez, c'est le premier livre polémique entre le judaïsme et le christianisme. Justin le Martyr, je pense. Alors, à la fin, les Romains ils l'ont tué. C'est pour ça qu'il s'appelle le Martyr. Ce type-là, j'ai lu son livre. Ce type-là, il pleure, il a imaginé une discussion avec Rabbi Tarfon. Ah, avec Rabbi Tarfon. Trifon. La discussion entre Rabbi Trifon et, je pense qu'il s'appelait Justinien. Il dit, pourquoi vous nous excluez de la synagogue? Mais on veut être juif. De toute façon, on a raison. Rabbi Tarfon, il a rigolé de lui. Il dit, il y a la discussion, tu racontes des bêtises, tout ça, tu racontes n'importe quoi. Discussion avec Trifon. Le livre s'appelle Discussion avec Trifon. Oui, monsieur Rabbi Tarfon, nous sommes, oui, le judaïsme. Tu n'es pas le judaïsme. Il a dit, pourquoi vous avez fait la malsine maltiti, quoi? Il a dit, on ne peut pas, ce n'est pas du judaïsme ce que vous racontez. Vous n'acceptez pas la Torah comme elle était donnée à Sinaï. Ce type-là, ce n'est pas le Mashiach. Et Dieu n'est pas descendu sur terre dans un corps de l'homme. Vous racontez des balivernes. Josh, qu'elle n'est pas marquée dans la Torah, jamais Dieu il a nommé cet homme-là pour le nouveau Moshe Rabbeinu. Vous inventez une histoire, inventez une histoire, mais ce n'est pas le judaïsme. Ça, c'est les Chachamim, ils ont exclu ces gens-là. C'est Koutiyim, tout ce qui est marqué dans la Torah a une incidence dans les futures générations. Maasi Avot Siman Lebanim. Ici, les gens de Shrem, c'était des demi-convertis que Yaakov il a pris leur idole, on les a enterrés. Dvorah, elle a dit, Yaakov, écoute ce que je te dis. N'accepte pas ces idoles de Shrem. Tu les enterres, c'est pas bon ça. 1700 ans plus tard, les Juifs, ils ont dit, les Koutiyim, ils ont déterrer ces idoles de Shechem, il faut les exclure du peuple juif. C'est la goutte qui déborde la vase, il faut les séparer. Et après les Juifs disent, ils me retrouvent sa voix. Le texte, il dit, « Vayavo Yaakov Luza, ils ont enterré les idoles, vayemen misbeach, vayikra lamakom el betel, kisham niglo elav elukim, bevochom epne achiv. » Et ils ont commencé à faire ici les misbeach à Eretz Israël. Yaakov et sa famille, ils ont servi Hachem. Et là, Dvora, elle est morte. Elle a fait son travail. Mais elle n'a pas fait son travail que pour le moment de Yaakov. Elle a fait ici un travail pour 1700 ans plus tard. Elle a sauvé le peuple juif pour 1500 ans. Les juifs, après le Chari, tu enlèves les coutumes. Ça, c'est le judaïsme. Et après, on ne trouve plus ces sectes chez les juifs. C'est fini, les chrétiens, les coutumes et compagnie. Il y avait plein de sectes. Ils sont sortis. Après le judaïsme, on savait qu'est-ce qu'ils disent. Ça, c'est qui a manipulé, manipulé entre guillemets. Ça, c'était Milka. Cette Milka, la sœur de Sarah. Sarah, elle a donné à boire à Deborah de son lait. Ils sont devenus des tzadikim. Milka, elle a pris cette voix. Toi, tu éduques les filles de la maison de mon fils Betuel, les filles de Lavan. Toi, tu vas les éduquer, tu vas transmettre. Toute la famille a bu le lait de cette femme, le lait et le miel de cette femme. Et peut-être c'était même pas du miel, peut-être c'était du gelé royal, parce que Milka s'appelle Malka, c'est la reine. C'était du gelé royal qu'elle a donné, elle a transmis. Et c'est pour ça, cet arbre-là, où elle est, en dessous, elle est enterrée, il s'appelle Alon Bachut, l'arbre sous le, là où on a pleuré beaucoup. Mais le texte, il dit « Tachat ha'alon », elle était enterrée sous un alon. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir s'il est enterré sous un alon, ou dans la Père Lachaise, ou la Mère Lachaise? Pourquoi la Torah nous raconte « Tachat ha'alon » Le mot « alon » a deux traductions. Rashi traduit « alon »« vallée ». Et l'autre pirouche, le Ramban, il dit « Alon » veut dire une chaîne. Un arbre, une chaîne. Le chêne, la chaîne, comment on dit, le chêne? La chaîne ou le chêne? Alors, pourquoi la Torah nous raconte ça? Qu'est-ce qu'on fiche comment il s'appelle cet arbre? Et pourquoi la Torah nous raconte « Alon » une vallée? Qu'est-ce qu'on fiche si c'est une vallée ou si c'est une montagne? Parce que on continue un peu le Chumash dans Parshat Ekef, il est marqué. Vous allez rentrer, Moshe Rabbeinu dit aux Juifs, vous allez rentrer en Eretz Israël, détruisez tous les idoles et tous les lieux du culte, al heharim haramim vetachat kol etzra anan. Les idoles qui se trouvent sur toutes les hautes montagnes et sous tous les arbres fruitiers. Etzra Anan, les arbres fruitiers et les hautes montagnes. En Eretz Israël, là où il y avait la montagne, ils ont mis là-bas une église dessus, la Havdil, comme, je ne sais pas si vous étiez déjà en Savoie, chaque fois il y a une haute montagne, il y a une croix dessus. C'est l'Avo des Arats toujours sur les hautes montagnes et sous des arbres fruitiers. Alors, Yaakov, il a dit, cette voraille vient de mourir, il faut que je la enterre. Où je vais la enterrer? Il faut savoir, à l'époque des idolâtres, ils aimaient de transformer les tombes des gens connus, des gens importants. Ils faisaient leur culte à côté de leur tombe. Yaakov Avinu, quand il est mort en Égypte, il a supplié Yosef, ne me laisse pas enterrer ici en Égypte. Amène-moi Marat Amarpela, je ne veux pas être enterré ici en Égypte. Une des explications, Rashi raconte, j'ai peur que ma tombe va être transformée en maison de culte d'Avodah Zara. Pourquoi Avraham Avinu, il a demandé qu'on lui vende la Marat HaMakhpela pour enterrer Sarah? Et Ephron, il a dit, mais monsieur le rabbin, je vous fais cadeau la Marat HaMakhpela si vous voulez. Il dit, je ne veux pas cadeau, je vais acheter. Je veux cette grotte, les Achouza, je veux l'acheter éternellement pour moi. Je veux qu'elle appartienne à moi. Mais je vous fais cadeau, je ne veux pas de cadeau. Je le paye. Et l'autre, il a payé 1 million de shekels, comme Rashi raconte. Il a payé cher. Je veux que ce sera à moi. Qu'est-ce que ça lui change si c'est à lui, si c'est à eux? Parce que si ça appartient à Ephron, ils vont récupérer cette Sarah. Sarah, cette femme qui rayonnait partout, que tout le monde la considérait, la femme, la juste, la tzadeket, elle est morte, elle est enterrée, c'est une femme à nous. Nous sommes les successeurs, les gens, ils veulent récupérer les grandes personnalités. Quand, après la Deuxième Guerre mondiale, la grande personnalité en France après la Deuxième Guerre mondiale était Monsieur de Gaulle. Ah, Monsieur de Gaulle, c'est lui qui a libéré la France. Donc, sont venus d'autres. On a dit, nous, on est le parti gaulliste. Qu'est-ce que c'est parti gaulliste? On va se rentrer dans les chaussures de Monsieur de Gaulle. Comme ça, ça s'appelle récupérer. Les gens, ils aiment de récupérer. Je suis le successeur de ces grandes personnalités. Malgré que tu n'as peut-être rien avec ces gens-là. Mais on aime de récupérer. Avram, il avait peur que cette Sarah va être récupérée dans la population des Hittim. Il a dit, faites pas de maison d'Avod Zara là-bas, c'est chez moi. Yaakov aussi, il avait peur qu'on va faire de sa maison maison d'Avod Zara. Donc il a dit, tu m'amènes à Marat Machpela. Moshe Rabbeinu, quand il est niftar, la Torah nous raconte, Velo yadaïch et kvurato adeyomazé, personne n'y sait où est la tombe de Moshe. Parce que si on aurait su où est la tombe de Moshe, ils auraient fait toutes les églises. Les Japonais, les Chinois, et les Turcs, et les hindouisme et bouddhisme, tout le monde aurait mis là-bas son église sur la tombe de Moshe Rabbeinu. Chacun veut récupérer ce bonhomme. Personne n'y sait où est sa tombe. Alors, nous, on sait qu'il est encore vivant. Alors, pas besoin que vous faites. Alors, Yaakov, il a dit, où je vais enterrer cette Dvoura? Ils vont la récupérer, cette Dvoura. Mais où ils faisaient la Avodah Zarah, les gens d'Eretz Israël? Sur la haute montagne, hein, et sous des arbres fruitiers. Alors il a mis Tachat Ha'alon. Une explication, Alon, c'est la vallée. Dans la vallée, ils ne faisaient pas Avodah Zarah. Et Tachat Ol Etzranan, sous un arbre fruitier. Etzranan, eh bien je prendrai un arbre qui n'est pas fruitier. Donc il a enterré Tachat Ha'alon. Elle est morte là-bas, pile au bon endroit, pour qu'elle ne sera pas récupérée pour Avodah Zarah. Par contre, l'autre chaîne qui était à Shrem, cela est devenu une maison d'Avodah Zarah des Samaritains qu'ils ont servi, et cela, Mehmet, il fallait se séparer d'eux. Shavua Tov.